Bonjour et bienvenue pour ce parcours qui va nous accompagner. Nous allons marcher ensemble de Noël à Pâques pour réfléchir cette année sur le grand mystère de la charité. Pour vivre votre vie chrétienne, vous avez trois vertus théologales, c'est-à-dire trois vertus qui ont Dieu pour objet, la foi, l'espérance et la charité. Alors la foi, elle se nourrit par la parole de Dieu, d'où le premier parcours de ce grand parcours Maranatha, qui est consacré à nourrir sa foi en ouvrant la parole de Dieu, en découvrant la Bible. La deuxième année de ce parcours, l'espérance, elle se nourrit par la méditation sur la résurrection du Christ. C'est le Christ qui passe de la mort à la vie et qui nous entraîne dans sa victoire. D'où le deuxième parcours que nous avons vécu l'année dernière, qui se concentrait sur les épisodes de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis cette année, on va travailler sur la charité qui se décline selon les béatitudes. C'est ce que nous verrons en particulier cette année. Et du coup, vous avez trois livres pour vous accompagner qu'on a écrit avec mon frère. Le premier qui s'intitule « Ouvrir les Écritures », le deuxième « Vive de la résurrection » et puis cette année, nous avons publié ce livre « Vivre des béatitudes ». Alors commençons. Il y a un adage qui revient souvent dans l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, ce grand théologien du XIIIe siècle, « Sapientis est ordinare ». Le propre du sage, c'est d'ordonner. Alors ordonner non pas au sens du maniaque qui range tout le temps sa chambre, mais ordonner avec sagesse, c'est-à-dire de tout prioriser de telle sorte qu'on atteigne notre finalité. Très souvent, on considère comme essentiel ce qui est second ou ce qui est secondaire. Ça, c'est un peu la folie. L'homme sage, lui, il va considérer comme essentiel ce qui est vraiment essentiel, comme second ce qui est second, comme secondaire ce qui est vraiment secondaire. Souvent, ça me rappelle cette image, vous savez, de l'homme qui met une échelle contre un mur. Et on est un peu comme ça. Et puis toute sa vie, on gravit les barreaux de l'échelle. Et puis cet homme, il atteint le dernier barreau de l'échelle. Et puis tout d'un coup, oups, il s'aperçoit que l'échelle était posée sur le mauvais mur. Et bien ça, c'est un peu la folie qu'on partage tous, plus ou moins. C'est de poser l'échelle sur le mauvais mur. On se trompe d'objectif, on se trompe sur l'essentiel. Alors qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Posons la question comme ça. Si vous n'aviez à faire qu'un seul choix pour être heureux et en bonne santé, ça serait quoi? Eh bien, pour essayer de répondre à cette question, j'ai lu la plus grande enquête jamais réalisée sur le bonheur par des psychologues de Harvard. Elle a commencé en 1938 et elle est toujours en cours. Elle a suivi 2000 personnes et leurs descendants sur plus de 85 ans, soit trois générations à peu près. On a analysé leur vie, leur santé, leurs relations sociales, leur évolution psychologique. Et les résultats ont été synthétisés dans un ouvrage récent, « The Good Life » de Robert Waldinger et de son associé Mark Schulz. Et le résultat principal de cette enquête, c'est surprenant, c'est que ce qui rend manifestement les gens plus heureux et en meilleure santé, ce n'est ni l'argent, ni la réussite professionnelle, ni le régime alimentaire, ni la célébrité. Ce qui permet d'être heureux, de vivre longtemps et en bonne santé, c'est, semble-t-il, la qualité et la fréquence des relations humaines. D'après cette enquête, les personnes qui entretiennent les relations chaleureuses et solides avec leur famille, leurs amis, leur communauté, sont non seulement plus heureuses, mais elles vieillissent aussi en meilleure santé, physiquement et mentalement. Et à l'inverse, malheureusement, la solitude et l'isolement social ont manifestement un impact toxique sur la santé. Des études récentes ont montré que la solitude est deux fois plus néfaste pour la santé que l'obésité. La solitude augmenterait par exemple de 26% le risque de décès au cours d'une année, spécialement chez les personnes âgées. Alors c'est clair, selon cette étude, si vous n'aviez à faire qu'un choix pour être heureux et en bonne santé, ce serait celui d'entretenir des relations chaleureuses et fréquentes, et en termes chrétiens, on pourrait dire, ce serait celui de vivre de la charité fraternelle. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, a cette phrase extraordinaire « Le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les œuvres réunies ensemble. » Le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les autres œuvres réunies ensemble. Alors, on va traiter de la charité fraternelle et spécialement du commandement donc de l'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous a dit Jésus. Et pour comprendre ce que Jésus dit exactement, et surtout pour mieux en vivre, on va regarder comment le commandement de la charité fraternelle peut se décliner en 8 béatitudes. Donc, on va regarder les béatitudes de Jésus. Ce n'est que Jésus est monté sur la montagne, c'est son premier grand discours, on appelle ça le discours sur la montagne. Et là, il a commencé, il a ouvert la bouche et il a dit « heureux ». Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, etc. On peut faire une analogie avec Moïse. Jésus, c'est le nouveau Moïse. Moïse est monté sur la montagne du Sinaï, il est revenu avec les 10 commandements. Jésus monte sur le mont des béatitudes, qu'on appelle ainsi aujourd'hui, et il commence par dire « heureux ». Alors, lisons ce texte. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » Saint Augustin disait que dans ce discours du Seigneur, toute la perfection de notre vie est contenue. D'une certaine façon, nous avons ici le résumé du christianisme en tant qu'il nous oriente vers le bonheur. Et Bossuet disait « Si le sermon sur la montagne est l'abrégé de toute la doctrine chrétienne, les 8 béatitudes sont l'abrégé de tout le sermon sur la montagne. » Alors, il y a 8 béatitudes, nous aurons 8 séances, bonne nouvelle. Donc, à chaque fois, on étudiera une béatitude, et puis ce sera aussi l'occasion, de façon très pratique, de ponctuer nos semaines de Noël à Pâques, en essayant de vivre plus intensément chaque semaine de tel ou tel aspect de la charité fraternelle. Regardons par mode de survol. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est la première béatitude. Elle nous invite à cultiver la pauvreté de cœur pour faire de la place à l'autre. C'est en nous dépouillant de nos prétentions à tout contrôler, et spécialement les autres, que nous pouvons véritablement accueillir notre prochain. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. La deuxième béatitude, nous le verrons, concerne la compassion, la capacité de consoler les autres. Pour aimer, il faut non seulement faire de la place à l'autre, mais aussi être capable de se mettre à la place de l'autre, spécialement de ceux qui pleurent, être capable de les consoler autant qu'on le peut. Pour ça, il faut de l'empathie, comme on dirait aujourd'hui. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Nous sommes dans un monde de violence, on parle aujourd'hui du brutalisme en politique. Il est nécessaire de vivre une vraie douceur. La douceur est la fleur de la charité, dit saint François de Sales. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors la justice est absolument nécessaire à la charité fraternelle. C'est un exercice de charité fraternelle. Sans justice, aucun amour n'est véritable. Sans respect de l'autre, aucune relation n'est authentique. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, c'est la forme que prend la charité à la vue de la misère d'autrui. Lorsqu'on perçoit la souffrance de l'autre, il y a un mouvement intérieur, une réponse du cœur qui nous pousse à lui venir en aide et à tout faire pour alléger sa souffrance. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La charité fraternelle suppose de voir Dieu dans l'autre. Ce n'est pas seulement de l'assistance sociale. Quand Mère Teresa s'occupait des mourants, elle disait qu'elle donnait à boire à Jésus. Là, on entre dans le grand mystère de la contemplation de Jésus à travers l'autre. Et pour cela, il faut avoir le regard pur. Et la pureté, on le verra, est la condition de la charité fraternelle. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Là, ça va de soi. Travailler à la paix entre les hommes est une œuvre éminente de la charité.
Construire des ponts, comme disait le pape François, plutôt que des murs, est une œuvre éminente de la charité. Et ça commence en famille. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, à cause de moi, dit Jésus. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ici, c'est peut-être plus difficile à comprendre, mais nous verrons en temps voulu que cette dernière béatitude est en fait la confirmation et un résumé des précédentes. J'irais même jusqu'à dire qu'elle nous donne peut-être la clé d'interprétation de toutes les béatitudes qui précèdent. Alors pour ce soir, revenons à cela. Si vous voulez être heureux et en bonne santé, si vous voulez mettre vos pas dans ceux de Jésus et être vraiment son disciple, alors c'est clair, il faut passer votre temps sur terre à entretenir le plus fréquemment possible des relations chaleureuses. En termes chrétiens, on dira qu'il faut vivre de la charité fraternelle. Semaine après semaine, vous pouvez choisir de miser sur les relations. Vous pouvez décider à qui et à quoi vous accordez votre attention et votre temps. Alors, je voudrais vous donner quelques pistes concrètes pour réfléchir sur ce point. Une première chose à faire, c'est peut-être de vous poser la question. Qui est-ce que je côtoie au quotidien? Faites la liste, posez-vous la question. Et quelle est la nature de ces relations? Posez-vous la question sous deux modes. En termes de fréquence, est-ce que ce sont des relations rares ou fréquentes? Et puis en termes de qualité, est-ce que ce sont des relations chaleureuses ou pas? Stimulantes ou épuisantes? Vous pouvez faire un tableau à double entrée comme ça, et puis lister un petit peu toutes les personnes qui vous viennent à la pensée quand vous vous posez cette question. Vous pouvez aussi vous poser la question en termes de besoins. En cas de problème ou de danger, qui appelleriez-vous? Si vous voulez un boost ou un encouragement, vers qui vous tournez-vous? Qui sait tout de vous? Qui appelez-vous si vous êtes déprimé? Y a-t-il quelqu'un qui vous rappelle votre passé, votre histoire, qui vous aide à vous sentir enraciné? Vers qui vous tournez-vous si vous avez besoin d'un avis d'expert? Et puis qui vous fait rire? Qui appelleriez-vous pour voir un bon film ensemble? Avec qui vous sentez-vous détendu, à l'aise? Alors attention, le bonheur ne dépend pas seulement de ce que les autres nous apportent, mais de ce que nous apportons aux autres. Alors on peut reprendre ces questions en inversant le pôle. Qui aidez-vous? Qui faites-vous rire? Qui mettez-vous à l'aise? Etc. Et puis parmi les personnes auxquelles vous consacrez du temps, lesquelles reçoivent vraiment votre attention? Simone Veil disait « L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. » On pourrait dire que c'est la forme la plus fondamentale de l'amour. Remarquer l'autre est une façon de le respecter, de rendre hommage à sa personne. Quand on est attentif à l'autre, c'est comme si on lui disait « Il est bon que tu existes, je suis heureux que tu sois là. » Alors pensez à quelqu'un que vous aimez, un proche, et posez-vous la question « Qu'y a-t-il chez lui ou chez elle que je n'ai pas encore remarqué jusqu'à présent? » C'est une question extrêmement puissante. Qu'y a-t-il que je ne remarque pas? Ou encore, qu'est-ce que cette personne ressent que je n'ai pas remarqué? Comment cette personne se sent-elle? À quoi pense-t-elle? Est-ce que quelque chose m'échappe? Comment je me sentirais si j'étais à sa place? Et quand vous le pouvez, faites-lui sentir que vous êtes curieux, que vous essayez de la comprendre. C'est un petit effort qui peut avoir un effet considérable. Pour préciser les choses, il me semble qu'il faudrait distinguer les liens forts et les liens faibles. Alors, les liens forts, c'est les liens intimes. C'est un joli mot, intime. Ça vient du latin intimus, qui signifie le plus en dedans, le plus intérieur, le fond de quelque chose. Le propre de la relation intime, c'est de connaître l'autre comme de l'intérieur. L'intime, c'est celui ou celle qui nous connaît bien, qui nous connaît comme de l'intérieur et réciproquement. Alors le premier lieu de ce genre de relation, bien sûr, c'est le couple. Dans un couple, on partage des choses très importantes en commun. L'amour, les enfants, les amis, la famille, les finances. Pourtant, même dans le couple, on peut progressivement avoir une relation superficielle et perdre en intimité. Là, il faut faire attention, les relations sont comme les plantes, elles ont besoin d'eau. Au fil des saisons, on peut les laisser se dessécher. Si on ne prend pas soin des relations, eh bien, on ne les nourrit pas, on ne leur donne pas d'attention, alors elles finissent par se dessécher, voire à mourir. Ensuite, il y a la famille. Aucune relation n'est comparable à celle que nous entretenons avec notre famille. Parce que c'est une relation qui relève pas seulement de la relation, justement, mais de l'identité. On porte tous en nous l'histoire de notre famille d'origine, même lorsque nous nous sommes éloignés des membres de cette famille d'origine. Nous portons tous la marque des expériences positives ou négatives qui nous ont marqués durant les premières années de notre vie. Et même si nous avons des enfants, que nous avons formé notre propre famille, eh bien notre famille d'origine existe toujours en tant qu'expérience antérieure fondatrice. Nous sommes hantés par les fantômes de notre enfance. Alors certains, quand ils songent à leur enfance, à leur famille d'origine, ressentent un sentiment de chaleur et d'affection. D'autres, au contraire, un sentiment d'amertume et de colère. Pour presque tous, c'est quand même un peu compliqué. En tout cas, pour le meilleur ou pour le pire, les membres de notre famille sont impliqués dans notre vie quand nous sommes enfants et quand nous grandissons. Nos parents sont les premiers êtres humains que nous avons vus, les premiers à nous avoir tenus dans les bras, à nous avoir nourris. Et nos frères et sœurs sont parmi nos premiers contemporains. Ils nous ont montré comment nous comporter et comment nous attirer des ennuis. Il y a donc le couple, la famille et aussi les amis. Les vraies amitiés sont des liens qui peuvent être très forts. Sénèque disait « Pourquoi est-ce que je prends un ami ? Afin d'avoir quelqu'un pour qui mourir, d'avoir quelqu'un que je puisse suivre en exil, quelqu'un dont je puisse sauver les jours s'il le faut aux dépens des miens. » Alors on n'a pas tous des amitiés aussi fortes, peut-être heureusement, mais songez au moins à ceux avec qui vous partagez la plupart de vos joies et de vos peines. Et puis là encore, faites la liste, très concrètement, de vos vrais amis. Vous savez que pour les enfants, les amitiés sont très importantes, elles sont parfois très intenses. Pour les ados aussi. Entre amis à l'adolescence, on se dit ses secrets, on se dit les grands désirs qu'on a dans la vie. Et malheureusement, en grandissant avec le mariage, la naissance des enfants, le boulot, ça s'étiole un peu. Les responsabilités familiales et professionnelles augmentent et on a souvent tendance à accorder plus de temps à d'autres choses qu'à voir nos amis. Les études de Harvard dont je vous parlais tout à l'heure montrent que ce n'est pas inéluctable, que ça dépend beaucoup de nos priorisations et qu'il en va de notre bonheur. Il y a donc des liens très forts, le couple, la famille, les amis. Et puis il y a aussi des liens plus faibles et qui sont néanmoins très importants. Les liens faibles, ce sont les liens de tous les jours avec les gens que nous rencontrons. Échanger quelques paroles avec tel commerçant, discuter avec quelqu'un dans le train, passer un moment de convivialité avec un inconnu. Tout ça peut avoir un effet très bénéfique sur le moral et amène un peu de bonheur dans le monde. Alors ce sont des liens faibles, mais très importants. Ce sont des relations avec des personnes que nous n'appellerons sans doute pas en cas de besoin, mais qui ont un effet très bénéfique sur notre bonne humeur et sur la paix dans le monde. Et puis, il y a bien sûr les liens de travail. Au cours des prochaines heures, des milliards de personnes vont se réveiller et aller au boulot. Dans le monde entier, les adultes passent la majeure partie de leur vie à travailler. Je crois qu'un travailleur moyen aura passé 13 années complètes de sa vie à travailler, beaucoup plus que le temps passé à voir des amis ou à passer du temps avec son conjoint et sa famille. Or, le travail, c'est d'abord un lieu de relation. Et là encore, les études de Harvard montrent que le facteur le plus décisif du bonheur au travail, c'est la qualité des relations humaines. Vous pouvez avoir le job de vos rêves et être très malheureux au travail si les relations entre collaborateurs sont très mauvaises. Et l'inverse est possible aussi. Vous n'avez pas le job de vos rêves, mais il y a de bonnes relations au travail, donc ça fait l'affaire. Les études montrent aussi, à l'inverse, que les métiers les plus solitaires, par exemple camionneur, agent de sécurité la nuit, livreur, etc., sont les moins satisfaisants en termes de bonheur. Donc encore une fois, c'est bien les relations humaines qui nous rendent heureux. Et puis il y a aussi le métier le plus vieux du monde. Alors non, je ne pense pas à celui-là. Le métier d'élever ses enfants, en restant avec eux à la maison pendant que le conjoint est parti au boulot. Bien, passer des heures chaque jour sans conversation adulte peut être abrutissant. Se sentir déconnecté des autres revient à se sentir seul. Alors j'ai posé la question, que faut-il prioriser pour être heureux et en bonne santé? On pourrait aussi poser la question de cette manière, qu'est-ce qu'il faut prioriser pour être heureux et en bonne sainteté? La réponse tient dans l'unique commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Jésus n'a pas donné d'autres commandements. Il n'a pas repris finalement, il a radicalisé ce qu'a dit Moïse, on le voit dans tout le sermon sur la montagne, mais il renvoie à Moïse, il renvoie aux prophètes tout le temps. Par contre, il a donné un commandement qu'il appelle le commandement nouveau, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors comment Jésus nous a-t-il aimés? Eh bien, c'est ce que les 8 béatitudes vont nous révéler. Les 8 béatitudes vont nous faire comprendre comment Jésus nous a aimés et comment nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Alors, je vous souhaite une bonne réflexion ensemble. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse.